Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un peu plus de 11h sur Radion 90.5 dans Lyon et 90.2 dans le Tonnerrois, parce que il faut quand même aussi rappeler maintenant que les Tonnerrois peuvent écouter Radion, ce qui n'était pas le cas depuis de nombreuses années, Tonnerre étant un peu dans une cuvette et nos amis du Tonnerrois ne peuvent pas capter beaucoup de radio, en tout cas ils peuvent désormais écouter Radion. Bienvenue dans Wagon Livre et merci de nous rejoindre pour le rendez-vous littéraire de votre radio locale. En effet, jusqu'à midi, c'est votre wagon-lit, votre émission bien habituée. Une émission que nous avons enregistrée le 12 février dernier, en Côte d'Or, précisément à Semur, en Aussois, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. C'est un rendez-vous proposé par notre ami et libraire Cyril Lefebvre. Et nous saluons également Yannick Perrin qui nous accueille dans sa galerie de peinture à Semur en Aussois. Alors pour ce premier cercle des auteurs bourguignons de l'année 2026, nous avons le plaisir de recevoir une femme qui a un parcours très, très divers, mais c'est Marie-Thérèse Mutin que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour Marie-Thérèse Mutin.
Bonjour Yannick.
Et merci à notre public, Marie-Thérèse, qui est là et qui nous écoute également. Merci à vous, cher public. Alors Marie-Thérèse Mutin, ancienne institutrice, de nombreuses fonctions politiques, on y reviendra. Et surtout, parue l'année dernière à la maison d'édition que vous avez créée, il y a 30 ans, les éditions Mutine, eh bien, un livre bilan de ces 30 ans est sobrement intitulé « 30 ans déjà » de Marie-Thérèse Mutin. Alors, Marie-Thérèse, nous avons déjà eu l'opportunité, dans Wagon Livre, de nous retrouver tous les deux, sans public, parler de vos romans, parler un petit peu de vous. Alors, j'ose pas dire en quelle année vous êtes née. Vous êtes très pudique sur votre âge, Marie-Thérèse?
Non, pas spécialement, non.
Alors, je vous laisse le dire.
Bon, ben, je suis née en 1939.
Alors, voilà. vous êtes née, donc, dans un petit village.
Je suis née à Cessé-sur-Tille, dans mon village que je n'ai pas quitté, où j'habite toujours.
Département 21, la Côte d'Or. Et puis, ce que je voudrais tout de même préciser, c'est que, je sais que chez les Mutins, vous l'écrivez dans un texte très autobiographique intitulé « Entre chien et loup ». Vous l'écrivez « Nous ne sommes pas très bavards dans la famille Mutin ». Et je me rappelle dans cette émission, vous avez parlé un petit peu de votre horizon familial. D'abord, vous avez beaucoup d'admiration pour votre maman. Et puis, par rapport à votre père, il faut dire que vous avez découvert votre papa tardivement. Mmh. Parce que vous l'avez rappelé, vous êtes né en 1939. Votre papa était prisonnier de guerre. Donc, vous n'avez fait connaissance à votre père qu'à l'âge de 5 ou 6 ans.
6 ans. À l'âge de 6 ans, oui. Il était prisonnier à Djibouti. Et il est revenu fin 45. Il est venu nous chercher dans la cour de l'école, à Cessé-sur-Tille, où j'étais au cours préparatoire, parce qu'il n'y avait pas de maternelle. Et donc, moi, j'étais épouvantée. Hein. On me dit, ah, c'est ton papa. Et moi, je n'avais jamais vu un homme comme ça. Ça me fait peur. Donc, je suis allée chercher mes frères et sœurs, qui m'ont dit, mais oui, c'est lui. Voilà.
Alors, bon, un père qui buvait, c'était pas très amusant, ça vous n'en faites pas mystère. D'ailleurs, vous l'écrivez dans Entre chien et loup. Oui. Et alors, beaucoup d'admiration pour votre maman.
Ah oui.
Beaucoup d'amour pour votre maman, qui a subi sans doute beaucoup de choses. Alors, d'abord, qui était seule avec 4 enfants pendant l'occupation, sans mari, prisonnier.
Ouais.
Un petit mot sur votre maman.
Ah ben, ma mère, oui, c'est une femme extraordinaire, quoi. Mais alors, on sait rien d'elle parce qu'elle ne parlait pas. Elle ne disait jamais rien. Elle n'expliquait. Puis comme toujours, hein, c'est une fois qu'ils sont partis qu'on dit oh, on aurait dû lui demander, parce qu'on croit qu'ils vont rester toujours là. Et puis du coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, quoi. Comme mon père était militaire de carrière, elle a beaucoup voyagé. Elle a été au Maroc, en Indochine. J'ai un frère qui est né au Maroc, un autre qui est né en Indochine. Et moi, je suis né à Cessé-sur-Tille parce que c'était la guerre et que à ce moment-là, mon père était sur la ligne Maginot. Ça vous dit quelque chose? Et à la déclaration de guerre, la famille et les enfants ont été repoussés à l'intérieur des terres. Et donc, ma mère, enceinte de moi, est arrivée avec ses trois autres enfants à Cessé-sur-Tille, où il y avait sa belle famille. Voilà. Et donc, on est resté tous les 6 ans de guerre, les 5 ans plus un petit peu, là, avec elle, toute seule. Et puis, on était très bien. On était très bien avec elle.
Ah, vous avez reçu, alors on le sait, vous êtes une femme de gauche. Est-ce que vous l'êtes encore? Enfin, socialiste, peut-être plus.
Attendez. Ah, là, moi, je suis... je suis socialiste. C'est le Parti socialiste qui n'est plus socialiste. C'est différent.
Vous avez reçu l'éducation catholique.
Ah oui. Ah ben oui, la famille Mutin, c'est... J'ai un cousin qui est prêtre, j'ai une tante qui est religieuse, enfin, vous voyez, donc, oui, j'ai été élevée dans la religion catholique, oui.
Alors, je souhaitais tout de même qu'on pose un petit peu le cadre familial de Marie-Thérèse. Ouais. Alors, on va en venir à la création des éditions Mutines en 1995, donc il y a maintenant, ça fera 31 ans, cette année 2026. Cette année, et donc, je rappelle, le titre de cet ouvrage, 30 ans déjà aux éditions Mutine. Carrière d'institutrice à Cessé-sur-Tille ou d'autres?
Non. Non, j'aurais pas voulu être... nul est prophète en son pays, dit-on. Hein. J'aurais pas voulu enseigner dans le village où je suis né. Non, j'étais dans les petits villages à Varan, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Et puis... 10 ans en classe unique à Marlien, et alors là, une classe unique, j'en parlais à une dame, hein, c'est la meilleure des classes, là. Alors, on n'a pas le temps de chômer, hein, mais c'est formidable, quoi. Mais elle a fermé, et donc j'ai été obligée de partir. Et
alors,
donc,
il faut
après,
dire,
j'ai fini à Genlis.
J'y pensais en faisant la route pour venir jusqu'à ce mur en Aussoin. Vous avez été institutrice, vous avez été dans la politique, maire, hein, là, c'est vraiment la politique très local, on est bien d'accord. Alors, je me disais, instituteur, aujourd'hui, ça ne fait plus rêver les jeunes. L'engagement politique local, peu de gens s'y risquent, c'est tellement complexe, et puis il y a tellement de violences, de menaces d'élus.
Oui.
C'est, vous avez connu une belle époque.
Ah oui, ça, tout à fait. C'est ce que je dis toujours. Là, j'ai été institutrice à un moment où l'institutrice, sa parole était jamais remise en cause par qui que ce soit, hein, ni les parents, ni les enfants, ni rien. Et puis mère, c'était pareil.
Alors aucun
mais on
élève.
On pouvait faire des accords verbaux qu'on ne peut plus faire maintenant parce que on vous arrive. Là, la parole du maire avec la parole de son administré, on n'avait pas besoin de paperasse, rien du tout, c'était acté quoi. Tandis que maintenant, j'étais dans une belle époque.
Donc les élèves ne vous appelaient pas Marie-Thérèse et ne vous tutoyaient pas.
Non. Même après 68, hein, c'est à ce moment-là que on a commencé à tutoyer, mais pas moi, non.
Et justement, vous qui avez écrit un texte intitulé Un monde sans école, mais ça c'était point de vue ironique. C'était déjà chez Mutine,
c'est le premier livre que j'ai fait parce que quand j'ai créé les éditions Mutine, après c'est bien beau de créer une édition, mais il faut avoir quelque chose à publier. Et puis quand les gens ne savent pas que vous existez, ben vous envoient pas de manuscrit. Donc j'ai commencé à publier mes propres livres. Et donc j'ai publié un livre pour enfants, c'est le seul que j'ai écrit, qui s'appelait Un monde sans école, et c'était un titre extraordinaire parce que sur les salons, vous savez, quand on fait des salons, les gens qui passent, qui sont attirés par la couverture ou par le titre. Et alors le titre Un monde sans école, c'était extraordinaire parce qu'il y avait les enfants, oui, les parents, waouh, les enseignants, ah. Et donc, à partir de ce moment-là, on pouvait parler, on pouvait expliquer le livre. Et la plupart du temps, on le vendait. Voilà. Tandis que autrement, et le titre est très important, c'est pas Monsieur Gérard Gauthier qui va dire le contraire.
Alors, là, un monde
un titre
sans école.
Et une couverture, c'est important pour nous.
1000 exemplaires?
Oui.
Qui ont été vendus, bon, pendant 20 ans, finalement.
Oui, voilà, c'est ça, 1000 exemplaires
vous
pour 20 ans.
Vous faisiez des tirages aussi gros? Encore aujourd'hui?
Ah, non, au début, en 95, l'impression numérique n'existait pas. Donc, on allait faire ça à l'offset, machine. Et on ne pouvait pas en faire moins de 500 avec l'offset, parce que le temps de lancer la machine, vous avez déjà sorti 500 avant qu'il ne l'arrête. Donc, moi, je le tirais à 1000, parce que quand on débute, on est on croit toujours que tout va bien aller. 1000, ça semblait faisable, quoi. Mais, alors, j'en ai peu qui ont été vendus à 1000 exemplaires. Hein. Il y a celui-là, mais sur 20 ans, parce qu'il se démode pas. Hein. C'était l'histoire d'une petite fille qui avait été envoyée au siècle précédent parce qu'elle en avait après Jules Ferry qui avait rendu l'école obligatoire. Et donc, il y a une sorcière qui dit, tu veux aller au siècle avant Jules Ferry? Dit oui. Puis elle se retrouve à travailler dans une usine 12 heures par jour. Et donc, du coup, au bout de 8 jours, elle dit, je vais revenir. Et alors, plus jamais un monde sans école, quoi. Voilà.
Alors, mais... Marie-Thérèse, on va venir à la création des éditions Mutines. Je reviens quand même un peu sur votre parcours politique et notamment un livre que vous avez fait paraître aux éditions Mutines. C'est une biographie d'un leader socialiste qui est Jean Popren, qui a été un temps le numéro 2 du Parti Socialiste, qui a été d'ailleurs ministre des Relations avec le Parlement, je crois, en 81, sous le gouvernement
Rocard.
Donc c'est plus tard.
Oui, c'était en 80.
Un petit mot tout de même sur ce Jean Popren, parce que vous avez adhéré au courant Popren.
Ah oui,
vous auriez aimé qu'il fût le secrétaire du parti.
Ah oui.
Plutôt qu'un Jospin qui était toujours dans le doute.
Oui, ça c'est évident. Jean Popren était d'abord un intellectuel. J'ai beaucoup appris à son contact. Il y avait aussi une philosophe que Gérard Gauthier connaît bien, Colette Audry. Et eux deux, la deux intellectuels, faisaient un petit journal qui s'appelait Synthèse Flash et qui était une mine pour la formation des socialistes. Et Jean Popren, c'était vraiment c'était un plaisir. C'était très enrichissant de travailler avec des gens comme ça, quoi. Moi, la politique, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas, quoi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Vive la politique. Alors évidemment, maintenant, je suis pas sûre que je l'écrirai, mais moi, je garde un souvenir. Et puis, j'aurais fait du tricot peut-être à ma retraite, quoi. Voyez ce que je veux dire? Tandis que là, ça m'a donné une ouverture d'esprit extraordinaire. Et je ne regrette pas. Et un enrichissement intellectuel assez fabuleux à côtoyer des gens de cette envergure qu'on trouve plus tellement maintenant. Enfin, j'ai l'impression, hein, dans les partis politiques.
Il y a deux figures que vous avez admirées au PS. Bon, Jean Popren et François Mitterrand, qui devient président de la République en 81. Parce que vous dites, il nous a fait vivre un militantisme désintéressé.
Oui.
Et puis, même si la politique est un univers un petit peu cruel, vous le disiez, vous dites, le slogan de la gauche était « changer la vie », mais finalement, l'élection de Mitterrand à la présidence en 81 a changé la vie de certains militants qui sont devenus ministres. Il y a eu quelques avancées sociales tout de même, mais on sent quand même que vous avez pris beaucoup de recul avec cette effervescence.
Parce que j'ai été responsable de la Côte d'Or, Parti Socialiste en Côte d'Or, avant 81 et après 81, ce qui était très rare. Parce qu'on était, une centaine de premiers fédéraux à se réunir à Paris. Et après 81, de la centaine qui était avant, il en restait trois. Les autres étaient devenus députés, ministres, conseillers, enfin voilà. Et donc j'ai vu le changement presque aussitôt. Le changement, changer la vie. Et j'ai vu la différence entre les militants d'avant 81 qui militaient vraiment pour changer la vie, vraiment pour faire de la politique, vraiment ils avaient un idéal. Et puis après 81, ça a changé. Ils venaient pour faire carrière. Vous voyez, bon, je ne citerai pas de nom, mais j'en connais. J'en connais.
Si. Dans un ancien numéro de Wagon Livre, vous parlez de Jean-Marc Ayrault, que vous avez bien connu.
Ah oui, Jean-Marc Ayrault,
qui a été dans le couperet Poprenne avec vous, mais qui lui l'a quitté parce qu'il voulait,
Il voulait faire carrière. Et puis, mais ça
voilà, c'est
pas
dit. C'est dit. Bon, nous avons vendu la mèche. Voilà. Hein, avec la complicité de Marie-Thérèse. On va marquer un premier intermède musical. Je rappelle que cette émission a été enregistrée à ce mur en Aussois dans le cadre du Marie-Thérèse ne suit plus, c'est le cercle des auteurs.
Ah oui, du cercle, mais je me trompe tout le temps. Alors
c'est justement,
pour ça
faut pas se tromper. C'est le cercle des auteurs bourguignons.
Il m'avait repris, Cyril, parce que j'avais écrit quelque chose de faux sur, puis, mais je me rappelle pas.
Eh ben, c'est le cercle des auteurs bourguignons de notre ami Cyril Lefemme.
Vous me fait des faux.
Bien à votre âge, Marie-Thérèse. Arrêtez donc ces coquetteries.
Ah ben, c'est vous qui m'avez dit de donner mon âge, donc.
Ah ben, il le faut, c'est important, parce que c'est une longue carrière,
ah oui.
Une longue existence heureuse et riche. On y reviendra avec cette création des éditions Mutines en 1995. Je rappelle que cette émission a été enregistrée en public et on remercie le public qui nous soutient.
Pour être bien, faut beaucoup d'argent. Et sourire, il y a pire, même si c'est noir dans le dedans. Faire du sport, ne pas grossir, être joli, évidemment. Une estime de soi brûlante. Travailler jusqu'à épuisement, et puis reprendre un autre calmant. Faire un peu de chirurgie avant, pour effacer ce qu'a fait le temps. On aura pour me dire, mais je crois que je suis au courant. Finalement, vaut mieux en rire. Pour être bien, faut faire semblant. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même, d'être bien. Des sacrifices j'en ai fait, les hommes solitiques je connais. Au secours, j'ai même pris la boîte en terre jusqu'à plus voir d'effet. Tous les amis j'ai appelés, eux se sont déjà sauvés. Ils ont quitté la capitale. Pour ceux qui dansent pieds nus sur du béton brûlant. Puis moi je suis resté sur ce même divan. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même. Tout le monde. C'est le moment de se lâcher. Huit milliards de gens en joie. Et moi, et moi, et moi, et moi. Pourtant je n'ai besoin de rien. J'ai toute ma vie clé en main. Huit milliards de gens qui se noient. Et toi, et toi, et toi, et toi, si tu veux attraper ma main, celle qui se donne du mal.
Pour être bien.
Ok, tout le monde. Tout le monde.
difficile, être bien avec moi-même, être bien avec moi-même, être bien. Plus le temps passe, plus je m'essouffle, plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, être bien avec moi-même, être bien.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Toujours en public dans ce Wagon Livre enregistré le 12 février dernier dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons avec Marie-Thérèse Mutin, créatrice des éditions Mutine en 1995 et qui raconte l'histoire, les péripéties, les moments forts, les moments parfois un petit peu inquiétants, les déceptions, mais surtout quand même beaucoup de bonheur, d'amitié, de convivialité avec au sein de cette association. Petit texte paru aux éditions Mutine qui a pour titre 30 ans déjà. Alors Marie-Thérèse, vous étiez institutrice, vous aviez eu plusieurs mandats politiques, conseillère régionale, alors maire de votre village tout de même pendant presque un quart de siècle, hein, 21 ans à Cessé-sur-Thie en Côte d'Or. Ans, oui. Vous avez été conseillère régionale,
députée européenne. J'étais jeune à l'époque.
À quel âge devenez-vous maire?
En 71, j'étais première adjointe et en 74, j'étais maire. Ouais. Une femme mère.
Oui, alors ça passait bien.
Jeune comme ça.
Ça passait bien. Une socialiste dans un monde rural.
Oui, c'était bizarre.
Et qu'est-ce qui primait? C'était l'institutrice plus que la femme d'engagement politique?
Oh, c'était parce que ma famille était de Cessé-sur-Tille, qu'il y a un agriculteur qui est venu me chercher parce que je n'imaginais même pas me présenter. Un agriculteur qui vient chercher une femme en 1974, hein, ça veut dire qu'il a 71. Voilà, pour que je sois sur la liste. Et puis, bon, le maire qui était là est mort en 74. Et donc, on m'a dit, bon, bah, tu deviens maire, quoi. Bon, bah, d'accord, on fait que. Voilà.
Donc, vous aviez 32 ans en 1971.
Voilà, c'est ça.
Alors, venons-en à la création des éditions Mutine en 1995. Comme ça. Vous décidez de créer une maison d'édition. Oui. Quelle étrange idée. Qu'alliez-vous donc faire dans cette galère?
Ben, c'est-à-dire que...
Il y en avait des maisons d'édition.
Oui.
Avant vous.
Ah ben oui, bien sûr.
Non, mais en Bourgogne, en Côte d'Or,
il y avait une maison d'édition avec un homme extraordinaire sa tête.
Oui.
Voilà.
Les éditions de l'Armançon,
Gérard Gautier. Les éditions de l'Armançon avec Gérard Gautier,
oui.
Que je salue bien et qui nous a beaucoup aidés. Parce que en 94-95, il y a eu je ne sais combien de... Vous savez, Gérard, vous... 10 maisons d'édition qui se sont créées pratiquement toutes avec des femmes à la tête. Hein. Et Gérard Gautier était déjà installé depuis 87 en Côte d'Or. Et donc.
Et vous aviez fait paraître des romans auprès des éditions de l'Armançon.
Ah, mais c'est après ça. C'est après. C'est pas avant. Mais quand on a créé quand on a été 10 à créer on savait rien. Et Gérard Gautier, il aurait pu dire, ouais, ils vont venir me faire de la concurrence. Non, il a fait le contraire. Il nous a aidés. Il nous a nourri de son expérience. Et là, je le remercie. Je suis toujours très contente de pouvoir dire quel homme extraordinaire c'est. Voilà. Alors, vous le connaissez, hein?
Mais alors,
il est là-bas au fond, hein?
Ces éditions Mutine que vous créez en 1995, donc vous les créez avec une optique particulière.
Oui.
C'est-à-dire que c'est quand même vous qui les dirigez.
Ah ben ça, oui.
Et j'ai noté quand même que certains vous reprochent un côté un petit peu autoritaire ou...
Dictatorial
de la gestion des éditions Mutine. Alors, que répondez-vous à ce genre d'accusation?
Ah, mais je dis qu'ils ont raison. et que ça n'est pas prêt de changer. Enfin, si tant est que ça continue assez longtemps. Non, mais
l'objectif, c'est tout de même de publier des textes. Alors, originaux, je sais que vous fonctionnez au coup de cœur,
et puis
qu'il y aille un petit peu à contre-courant du conformisme et de la bien-pensance,
Même en 95, ça commençait déjà à être assez conforme, assez la pensée unique en 95. C'est la pensée unique, et donc moi ça me désole, et du coup je crée les éditions, puis au début, comme je vous ai dit, il a fallu que j'écrive des bouquins à moi. Avant qu'on sache qu'on existait, parce qu'en 95, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le courriel, il n'y avait pas, et donc c'était difficile de se faire connaître. Et il y a un moment, on avait toujours avec Monsieur Gauthier et avec le Centre régional du livre qui venait d'être créé pratiquement, on faisait le salon de Paris. Il y avait un emplacement qui était acheté par la région et où on se retrouvait tous les éditeurs bourguignons dans une très bonne ambiance, toujours grâce à Monsieur Gauthier. Non, mais c'est vrai. Et donc là, il y a un des salons, peut-être même le premier, il y a des jeunes qui sont passés, et ils faisaient eux une revue qui s'appelait Audace, je crois, et dans laquelle ils mettaient en rapport les auteurs avec les éditeurs, puisqu'il y avait pas, on tapait pas sur Internet pour, donc j'avais été interviewé par eux, et donc ça a paru les quelques moments après le salon de Paris, et du coup j'ai commencé à recevoir un nombre impressionnant de manuscrits. C'est impressionnant, hein, c'est
Qu'il s'agit de les lire après.
Eh ben oui, il s'agit de les lire, et là
puis vous aviez une activité encore.
Ah ben, j'avais toute mon activité. Je n'ai jamais quitté ma classe. J'ai fait de la politique, mais j'ai toujours été institutrice jusqu'au bout, parce que je trouvais que c'était important. Hein. Et puis donc j'avais mon activité politique.
Oui, 95, moi, vous créez 95. Les éditions. 97, vous êtes député européen.
Ah ben oui, mais ça c'était un hasard. Moi, j'ai toujours été élu par hasard.
Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, justement, ce que vous recherchez dans les manuscrits. Je vous cite, vous écrivez, « Ce que je recherche dans les manuscrits, c'est une originalité, soit dans la forme, soit dans le sujet traité. »
Oui, c'est ça, je recherche ça, oui.
Alors, si on est un peu trop de droite, et que est-ce qu'on peut être édité par Marie-Thérèse Mutin ?
J'aurais pas un coup de cœur pour un écrivain de droite. Ça, c'est pas possible. Un texte de droite.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un texte de droite ? Un roman qui connotation libérale ou de droite. Par exemple, vous m'aviez dit, dans une émission que nous avions faite il y a... Mais c'est simple, c'était pour les 20 ans. Donc, il y a 10 ans. C'était en 2015 ans, à Dijon. J'étais déplacé, oui. On s'était rencontré à l'hôtel de Vaugoué à Dijon. Vous disiez, faut que je retrouve exactement la citation, je l'avais notée, ça m'avait juste interpellé, « Je n'ai jamais trouvé un texte écrit par un homme d'extrême droite qui me plaise. »
Ben oui.
Alors donc, par exemple, vous n'allez jamais lire un roman de Louis-Ferdinand Céline.
Ah oui, non, mais attendez, je ne l'ai pas édité, Louis-Ferdinand Céline.
Non, mais je veux dire...
Non, mais d'accord.
Là, il y a un côté un petit peu sectaire à dire ça.
Mais bien sûr. Écoutez, moi, j'ai reçu une fois un texte de quelqu'un du Front National, manifestement du Front National, et j'ai pas pu.
Mais vous saviez qu'il était membre du Front National.
Non, pas du tout. Mais à le lire, j'ai dit ça va pas. Donc je lui ai téléphoné pour lui dire non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'était pas content. Il a dû m'insulter, mais enfin bon, être insulté par quelqu'un d'extrême droite, ça me posait aucun problème, donc voilà.
Alors, comment les auteurs viennent à vous ? Parce que vous ne faites pas dans le régionalisme, c'est ça qu'il faut bien comprendre.
Non, je ne fais pas dans le régionalisme. Eh ben, ils viennent, ce que je vous ai dit, ils m'envoient des manuscrits grâce à ces petits jeunes gens-là qui ont fait la revue là, en mettant l'adresse et tout, et donc je reçois du manuscrit chez moi, et puis je lis. Alors j'avais une nièce qui en lisait une partie au début, hein. Mais de toute façon, si elle en trouvait un de bien, c'était quand même moi qui décidais, hein, c'est pas. Mais il y en a un qu'elle m'a trouvé, elle. Autrement, les autres, c'est ce qu'elle me disait il y a pas longtemps. On en a lu des choses.
Alors, vous publiez 4 à 5 livres par année?
Oui, même 3 à 4 plutôt, hein. 3 à 4.
Et alors, il faut expliquer le fonctionnement puisque les éditions Mutines sont une association.
Ah, oui,
alors, il faut que vous expliquiez, c'est voilà. Là l'originalité.
C'est une association où les membres qui adhèrent, en ce moment, si vous en voulez, mais j'ai même pas apporté, voyez comme je suis, j'ai même pas apporté de bulletin d'adhésion. Enfin bon.
Bravo.
Mais j'ai des adhérents là, hein. J'ai des adhérents qui sont là, oui. Oui, oui. Ils sont fidèles. Pour 50€ de cotisation à l'heure actuelle, les adhérents reçoivent les livres que je publie dans l'année, c'est-à-dire qu'ils reçoivent 3 sans rien verser de donner
sans
de plus.
De,
sans rien
ouais,
de,
sans
ils
rien
reçoivent
de plus, oui.
les livres que je publie dans l'année. Ça veut dire qu'ils en reçoivent 3 ou 4, mais plutôt 3 maintenant. Parce que en plus, alors donc à ceux qui sont proches de chez moi, je leur dis, venez donc boire un café pour chercher votre livre. C'est-à-dire que moi, ça fait rien, je suis droguée au café, donc c'est pas gênant. Et pour les autres, pour les frais d'envoi maintenant, c'est ahurissant, quoi. Ça a triplé par rapport à ce que c'était en 95, au moins, hein, au moins. Là, j'ai eu, il y a quelques jours, le livre de Jean Popren, hein, c'est un bouquin énorme. Il fait donc presque un kilo.
C'est la biographie que vous avez écrite,
oui,
sur Jean Popren.
Oui, la biographie sur Jean Popren. On me le commande. Alors, au moment où il est sorti, je ne sais pas combien il était. Mais vous savez, j'ai été obligée de mettre 9,52€ pour l'envoyer. Vous rendez compte? C'est presque le prix du livre.
Bon, là, c'est une commande.
Une commande d'une librairie, donc je ne peux pas faire autrement.
D'accord. Alors maintenant, la diffusion en librairie, pas facile.
Surtout,
parce qu'on sait.
Surtout que moi, je à part Cyril qui est extraordinaire. Hein,
donc comme, Cyril Lefebvre à ce mur
Cyril
en Lefebvre, soi. Librairie de la Poste,
librairie
rue
de
du
la
Beauvoisin.
Poste, oui, voilà, c'est ça. 8.
8, bravo.
Oui.
Mais à Dijon.
Mais à Dijon, mais
il y a quelques librairies.
Mais oui, mais j'y vais pas.
Mais vous pourriez faire comme Gérard Gauthier faisait
mais oui,
du temps
mais
des
Gérard
éditions
Gauthier,
de l'Armançon,
c'est Gérard
de faire
Gauthier,
le représentant.
Gérard Gauthier, c'est un éditeur. Gérard Gauthier, moi, je suis une amatrice,
oui.
Un amateur. Je suis pas
au
une
sens
professionnelle.
Étymologique du terme,
Gérard
oui.
Gauthier est un professionnel, oui. Un grand professionnel.
Non, et puis le but des éditions Mutines, c'était pas de gagner de l'argent.
Ah ben non. Autrement, j'aurais fait autre chose. Non, c'était pas de gagner de l'argent.
Non, mais il faut
oui,
quand
oui,
même
oui.
Que les
bien
finances
sûr,
soient
bien
à l'équilibre.
Bien sûr, oui, oui, oui.
Bah, on peut être socialiste et être bon avec les chiffres.
Ah oui, ben ça ne gêne pas. Oui, bien sûr, on a eu des ministres des finances socialistes.
Je voulais pas que vous dénonciez des gens, mais.
Ah non, oui.
Alors,
oui.
Il y a des auteurs.
J'ai bien compris, ça y est, je viens de comprendre.
Il y a des auteurs qui viennent à vous. Qui reste longuement dans l'association, qui vous donne régulièrement des écrits.
Oui.
Alors, on peut pas tous les mentionner, ces auteurs. Hein. Certains sont passés dans le wagon livre. Bernard Châtelet, et il a publié de nombreux livres, même un pamphlet. Et puis alors, au bout de 15 ans, il a démissionné. Enfin, il a divorcé avec vous. Vous écrivez, hein. C'est dans le petit opuscule, 30 ans déjà. Il a mis fin à notre relation de 15 ans. En critiquant de façon blessante toute la philosophie de notre association.
Ben oui.
Qu'est-ce qui lui est passé à Bernard
Châtelet? Pas compris. Je sais.
Vous avez été désagréable, il a fumé,
mais
il a
non,
bu.
Mais
qu'est-ce
enfin, non, j'ai reçu ça comme ça. Alors que c'est un homme qui était vraiment présent à toutes nos associations, à toutes nos manifestations.
Les assemblées générales.
C'était vraiment, oui, aux assemblées générales, à toutes les manifestations, il était là, il animait et tout. Et d'un seul coup, je reçois un mot, mais vraiment agressif, comme c'est pas possible. Alors, est-ce que c'est
C'est vous qui étiez ciblé ou l'association des éditions Mutines?
Ben, c'était les deux. Enfin, je ne sais pas. Il s'en est pris à la philosophie des éditions Mutines, qui Bon, c'est un homme de droite, lui. Ça ne se sent pas dans ses écrits. C'est un homme de droite comme beaucoup qui savent pas qu'ils sont à gauche. Mais bon, ça, c'est qu'est-ce que vous voulez. Mais ça arrive, ça. Et l'inverse aussi. Et il y a des gens qui votent à droite parce que la famille a toujours voté à droite. Ils ne sont jamais fait autre chose que de voter à droite sans réfléchir. Et puis à gauche, c'est pareil. Hein, à gauche, c'est la même chose. Donc, vous avez quand même des gens qui savent pourquoi ils votent à gauche. Mais c'est pas ce que je dis. Hein.
Alors.
Et donc.
Je clôt sur ça.
Bon.
En revanche, ce qui m'intéresse, par exemple, Claude Andrieux, c'est un sacré coco, celui-là. Donc, en 99.
Il s'appelle Claude Andrieux.
Oui.
Oui, Claude Andrieux.
Page 35, vous publiez de lui un beau texte intitulé Une nuit avec un écrivain algérien.
Oui,
alors
oui.
Là aussi, vous ne savez pas qui vous publie, en fait. Après coup, vous découvrez des tranches gaillards.
Je publie des textes.
Voilà.
Je ne publie pas des auteurs, je publie des textes.
Et vous ne les connaissez pas?
Mais non, je ne les connais pas.
Il n'y a pas de copinage.
Quand je trouve un manuscrit qui me convient, je regarde quand même le nom de l'auteur. À ce moment-là, il a mis son numéro de téléphone, donc je l'appelle et je lui dis voilà comment on fonctionne, voilà, et donc, voilà. Mais je ne connais pas l'auteur. J'ai pas besoin de connaître.
Alors, vous voulez pas raconter l'anecdote?
L'anecdote de Claude Andrieux.
Ah oui, c'est...
Ah ben, Claude Andrieux.
Vous recevez...
Oui.
Alors, vous publiez son livre.
Ah oui.
Et un jour, il y a une jeune femme qui vous dit...
Qui me téléphone, puis me demande combien ça a coûté à Claude Andrieux pour faire son livre. J'ai dit, ça lui a rien coûté. Comment ça, ça lui a rien coûté? Ben, j'ai dit non. C'est moi qui ai payé le tout. Ah bon? Elle me dit, mais elle lui avait prêté une somme, je me rappelle plus une somme importante pour faire son livre. Il l'avait escroqué. Et j'ai pas eu de chance parce que du coup, la jeune femme là, elle lui avait dit, j'irai. Quand on a commencé pour faire des dédicaces dans les librairies et tout ça, j'irai à chaque fois que tu seras là pour faire un scandale. Donc, du coup, il ne venait pas aux dédicaces. Vous voyez, on tombe toujours sur des drôles de clients. Hein.
Alors, par exemple, quand Monsieur Roger Lamy... Qui est Monsieur Roger Lamy? Ça,
Monsieur
c'est émouvant, ça.
Ah oui, Monsieur Roger Lamy, c'est l'instituteur de Cessé-sur-Tille dans les années 50 qui m'a permis d'entrer au cours complémentaire, parce qu'il y avait un concours pour entrer en sixième. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça. Si, vous avez connu un concours, hein, pour 25 sur l'ensemble d'un canton. Hein, voilà. C'était un concours très difficile.
Alors, en 2002, donc, il vous amène cahiers, c'est ça?
Il me permet donc d'être ce que je suis, c'est-à-dire au moins institutrice, autrement sans lui, je l'aurais pas été. Et il arrive, avec 4 gros cahiers noirs, écrits à la plume. Tiens, puisque tu fais de l'édition, édite-moi ça. Ah, eh ben évidemment, c'était lui, je lui devais beaucoup. Donc j'ai tout retapé, tout relu, enfin un travail énorme que je ne ferai plus pour personne. Hein. C'était vraiment pour lui parce que je lui devais tout. Et donc on a publié, ça s'appelle La vie au risque du bonheur, c'était sa biographie. Voilà. Et donc il était très content. C'est un homme extraordinaire parce que il allait dans les réunions. C'est un vendeur extraordinaire. Il avait été ancien combattant, bien sûr, combattant et ancien combattant. Il était instituteur, donc il y avait les repas des anciens de Léen. Enfin, il
les
était
foyers,
dans des
oui.
tas dans
les
tas.
Animateurs des foyers ruraux.
Oui, animateur voilà, des foyers. Il les enfin, avait même créé les foyers ruraux au niveau national. Et donc, à chaque fois qu'il allait dans un repas, les gens, ils achetaient son bouquin, quoi. Il leur parlait tellement qu'ils étaient obligés, ils pouvaient pas s'en aller sans avoir le bouquin.
Ce qui est le cas du vôtre, il ne faudra pas partir sans votre bouquin et on va marquer un intermède musical. Et je rappelle qu'il ne faut pas frapper sur la table.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, parce que nos auditeurs, ils entendent des gros booms. On revient avec notre invitée Marie-Thérèse Mutin, 30 ans déjà aux éditions Mutine, émission Wagon Livre enregistrée dans le cadre du Cercle des cercle. Auteurs. Bravo, Marita. C'est pas toujours une bonne élève. Cercle des auteurs bourguignons, toujours en public. Et cercle on se retrouve juste après la virgule musicale.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Sont belles et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble. Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles. Et les filles sont belles. Les idées s'y troublent, et le corps se rappelle. Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble. Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver. Tu me manques tellement. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci, cher public. Le Cercle des auteurs bourguignons, c'était le 12 février dernier à la galerie de Yannick Perrin à Semur en Auxois avec la truculente Marie-Thérèse Mutin, créatrice des éditions Mutines, qu'on applaudit encore très fort. 30 ans des éditions Mutines, donc née en 1995. Ce petit livre toujours disponible. Alors, on peut le commander, hein. On tape édition Mutine, il y a un blog, on peut téléphoner, on peut envoyer un mail, on peut acheter sur
on
le.
Peut venir,
hein,
on peut venir chez moi boire un café.
On peut venir boire un café. Moi, j'ai été reçu souvent à Cessé-sur-Ty dans la maison qui était la maison de vos grands-parents,
de
je crois,
hein.
C'est
oui,
ça.
Oui.
Où nous avons mangé une délicieuse saucisse de Morteau tous les deux.
Ça s'en souvient,
bien sûr. Bien sûr. Et l'accueil est très chaleureux. Je confirme. Le café est très bon et Marie-Thérèse est aussi délicieuse chez elle que dans la galerie de peinture de Yannick Perrin. Alors, tous ces auteurs qui sont devenus des amis, certains avaient publié dans des maisons un peu importantes et avaient du mal à pouvoir continuer à être édités. Je pense à des gens comme Jean Guillouaneau,
Jean Guillouaneau.
Était traducteur de Nelson Mandela. Il a peut-être
Nelson
même fait
Mandela,
une biographie de Nelson Mandela,
de Tony Morrison. Salman Rushdie. Et là, il était sous protection policière aussi, en même temps que Salman Rushdie. Enfin bon, voilà, oui, Jean Guillouaneau, c'était... Oui, oui, j'ai été toujours surprise que... C'était un traducteur surtout, mais enfin quand même, quoi, qui ne trouve pas de maison d'édition à Paris. Non.
Alors, il ne trouvait pas aussi parce que ses textes étaient victimes un peu de l'autocensure des maisons d'édition parisiennes.
Oui,
alors que chez Mutine, il y avait plus de place
non,
pour la liberté.
Ah ben non, il n'y a pas d'autocensure, non, oui. Ils avaient fait...
Il n'y a pas d'autocensure, Marie-Thérèse? Aujourd'hui, si un texte, je ne sais pas, aborde des sujets un peu délicats, vous allez dire, ah oui, mais ça...
Oui, non, il n'y a pas d'autocensure à gauche.
Ça peut, ça peut. Alors, on parle... Donc, on l'a bien dit. Il y a pas de, c'est pas une maison d'édition. Vous ne faites pas dans le régionalisme. C'était pas le, hein, rien à voir avec ce que faisait Gérard Gautier.
Non.
Et les éditions de l'Armançon, vous ne marchiez absolument pas sur ces plates-bandes. Il y avait des Bourguignons qui venaient vous trouver. Il y avait aussi des Parisiens qui venaient faire publier. Alors, vous dites que, ça, c'est amusant que les Parisiens, ils savent pas vendre leurs livres.
Ah, non.
Ils sont nuls.
Non, ils sont, non, mais
c'est pas gentil,
ils sont nuls, mais ils ont pas les réseaux qu'on a en campagne. Ils ont pas, et voyez, nous, on va faire un salon à Saint-Bernon, un salon à Bougeot, un salon
au lac de Pont.
Au lac de Pont.
Ah, il y a les grands salons, puis il y a les plus petits salons qui sont pas si petits que ça, qui attirent 200-300 personnes en une après-midi.
Mais bien sûr, puis qui sont intéressantes. Et donc, à Paris, ils n'ont pas ça. La plupart du temps, ils savent même pas s'il y a une librairie, ils savent même pas s'il y a une bibliothèque, ils savent rien. Donc,
c'est parce qu'ils prennent pas le temps de se renseigner, parce que tout de même, dans les grandes villes.
Oui, mais bien sûr, mais c'est pas évident. À Semur, on vous habitez Semur, vous savez qu'il y a la librairie de la Poste, quoi.
Oui.
Ah oui, non, mais voilà. Tandis qu'à Paris, vous pouvez être à côté d'une librairie, vous n'en saurez rien. Et donc, les auteurs de Paris, qui sont doués, hein, je ne dis pas, mais du coup, moi, j'ai dit, je ne vous publie plus parce que c'est une catastrophe, quoi. Ils ne sont pas capables de vendre un bouquin.
Alors, vous avez fait appel à des subventions parce que vous écrivez, page 53, ayant siégé à la commission culture du conseil régional de Bourgogne, j'imagine, je sais comment sont distribuées les subventions et je me suis juré de n'en jamais demander. Mais qu'est-ce que c'est que cette fierté?
C'est comme ça.
Pourquoi alors refus des subventions?
Mais parce que
pour conserver sa totale liberté.
Mais bien sûr, parce qu'il y a un contrôle. Hein. Je sais qu'il y a un contrôle sur les textes, sur tout ça, pas au conseil régional. Bon, j'ai vu des pièces de théâtre surtout refusées hein, par la droite bourguignonne en disant non. C'est comme ça que j'avais dit à un moment donné. J'étais au conseil régional et puis il fallait que je parle du budget de la culture. C'était le président Lucotte qui était là, le maire de d'Autun. Et donc, moi, ça m'ennuyait, les chiffres, tout ça, les machins. Je dis, de toute façon, les chiffres, il les connaît mieux que moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, je commence comme ça. Ah! Heureusement qu'il y a 500 ans, nous avons eu les ducs de Bourgogne, parce que tout le budget était fait sur le patrimoine. Hein, le spectacle vivant, tout ça, non, ça n'existait pas. On n'allait pas subventionner des gens dont on savait pas trop bien, voilà. Et donc, je lui dis, ah, heureusement que il y a 500 ans, nous avons eu les ducs de Bourgogne. Mais, monsieur le président, je doute fort que dans 500 ans, un élu s'écrie, ah, heureusement que nous avons eu le président Lucotte. Ça, j'étais à froid. Il m'a jamais répondu. Mais alors, bon, je ne savais pas trop comment avait été prise cette réplique. J'en avais rien à faire, hein, de toute façon. Je trouvais que c'était très parlant, qu'il n'y avait pas besoin de faire de plus de discours, de dire voilà tout est mis sur le patrimoine, rien sur le spectacle vivant. Ça voulait dire ça. Hein.
Alors parlons d'une petite phrase aussi, une petite phrase bien pesée de Marie-Thérèse dans cet opuscule dont je rappelle le titre. 30 ans déjà avec un point d'exclamation. C'est chez Mutine. Le système capitaliste sévit aussi dans l'édition.
Oui, ben c'est vrai.
Mais alors aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui quand même Marie-Thérèse, je me rappelle les 20 ans de Mutine en 2015, je me rappelle de l'affiche. Oui. Fond rouge.
Oui,
un point levé. Vous vous sentez toujours, on peut dire que les éditions Mutine sont tout de même engagées.
Ah oui, oui, bien sûr qu'elles sont engagées.
Est-ce que vous n'avez pas peur aussi qu'il y ait des lecteurs un peu sectaires qui disent « Ah non, mais moi la Marie-Thérèse, là, la Mutine, c'est bon, j'achète pas ses livres, c'est un, allez, on va dire, un repère de gauchiste.
Ben » oui,
vous pouvez en être victime.
Ben oui, non mais oui. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui me disent ça.
Alors,
ça voudrait dire qu'au moins, ils ont pris conscience qu'il y avait une maison d'édition, ce qui n'est pas si mal.
Alors, vous avez recueilli aussi un grand nombre d'auteurs dont les maisons d'édition ont dû mettre la clé sous la porte. Alors, Anne-Catherine Blanc, Marc Ray, Loïc Le Goff, Patrick Chélonik, tous ces auteurs qui effectivement sont venus.
Oui. sont venus
proposer leurs manuscrits à la tyrannique Marie-Thérèse Butin.
Je les appelle les orphelins parce que quand Gérard a été obligé d'arrêter ça.
Alors, Gérard Gauthier des éditions
Gérard
de l'Armançon.
Gérard Gauthier, pardon, des éditions
de l'Armançon.
C'est pour nos
auditeurs.
Oui, enfin, il est connu ici quand même. Hein. Quand malheureusement ça s'est terminé en 2019.
18.
Il y a ces auteurs qui sont venus chez moi. C'est ceux-là que je les appelle les orphelins.
Et puis, dont Loïc Le Goff.
Dont Loïc Le Goff.
Hein, Gérard est venu avec le manuscrit.
Ah oui, Gérard est venu. Gérard, il a fait le métier que je fais pas, hein, avec Gérard Le Goff.
Loïc Le Goff.
Loïc Le Goff, oui.
Loïc Le Goff.
Parce que.
Le Grand Détour, Prix du Morvan.
Le Grand Détour, Prix du Morvan. Et c'est un livre exceptionnel. Très bon. Un roman très bien écrit, en plus, avec un style comme j'aime, quoi. Et puis, il a
écrit. Une veine sociale, comme vous aimez.
Oui, ben, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais, oui, mais Gérard s'en est beaucoup occupé pour la vente. Gérard Gauthier, il s'en est beaucoup occupé dans les librairies et tout. Hein.
Alors,
heureusement.
Oui, il faut parler un peu de l'avenir.
Ah.
Oui.
Ah.
Alors, vous continuez au rythme de 3 à 4 publications par année. Combien d'adhérents? En cette année, début d'année 2026.
En ce moment, il y en a 140 à peu près. Ben, il y en a qui meurent, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ma santé, malheureusement, hein, dans ceux qui ont adhéré en 95.
Alors justement, est-ce que...
Non, mais il y a toujours des adhésions.
Non, mais bon, vous n'êtes pas éternelle, Marie-Thérèse Mutin, je suis navré de le dire, vous le savez bien.
Oui, je le sais.
Alors, est-ce que les éditions Mutine sont condamnées à disparaître lorsque Marie-Thérèse Mutin fermera les yeux?
Je pense, oui. Je pense. Oui.
Pardonnez cette espèce de.
Ah oui, oui, de, non, mais bon, j'en parle moi-même.
Oui.
Hein. Oui, je vois pas. Je
qui
vois
pourrait
pas.
Prendre. Et puis, vous n'aimeriez pas.
C'est pas que j'aimerais
c'est
pas.
C'est votre création, c'est votre bébé.
Non,
les
mais
éditions
moi, non, c'est pas ça, mais c'est que à qui on peut confier un truc pareil?
Ou alors, en perdant un peu la philosophie originelle?
Ah, mais non, mais même pas. Non. Enfin, Gérard Gauthier, est-ce que ça a un avenir, nos petites maisons d'édition?
Et ça, on en parle hors micro, parce que les, oui, non, Gérard, on l'entend pas, là. Il a pas de
oui,
micro.
Oui, non, mais d'accord. Non, mais avec ce système, le système capitaliste, hein, je regrette. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez pas continuer à faire de l'édition.
Hein? En tout cas, ce que j'ai noté, c'est que l'émission littéraire de radio n'est mentionnée.
Ben oui.
Ainsi que Françoise Remy, qui effectivement...
Jocelyne Remy, oui, elle nous manque,
mais
Jocelyne
oui, qui faisait de très bons papiers dans Lyon Républicaine, effectivement.
Non, dans le Bien Public.
Dans le Bien Public. Mais elle a dû travailler aussi pour Lyon Républicaine.
Je ne sais pas.
Oui, oui.
Mais au moins, là, il y avait une journaliste qui lisait les livres, qui ne vous mettait pas seulement la quatrième de couverture, comme beaucoup, qui lisait les livres et qui les commentait.
Les défendait et les valorisait
les
dans la presse.
Oui,
et
les valorisait, oui, toujours.
Alors, Marie-Thérèse, un petit mot de conclusion. Sur quoi voulez-vous mettre l'accent là dans les 3 minutes qui nous restent d'enregistrement de ce cercle des auteurs bourguignons? Public, applaudissements. Et puis, Marie-Thérèse réfléchit pendant ce temps. Qu'est-ce que vous retenez de ces 30 ans? Beaucoup d'amitié.
Des 30 ans? Ah oui. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai des auteurs qui sont, il y en a à Nice, il y en a à côté de Perpignan, il y en a en Bretagne.
En Normandie.
Et quand je fais une rencontre littéraire, par exemple, ils viennent à leurs frais. Ils prennent un hôtel, enfin, voyez, et ils viennent à une manifestation. Et moi, je suis toujours ébahie parce que, ah, mais ils disent, on aime parce que là, ils rencontrent leurs lecteurs. Ils rencontrent leurs lecteurs puisque les adhérents viennent et on passe des moments où il n'y a pas de lutte de pouvoir, où il n'y a pas de problème d'argent, et donc on passe de très, très bons moments ensemble, quoi.
Alors, tous les livres, si on n'est pas adhérent, on peut aller découvrir.
Oui.
les ouvrages sur le blog des éditions Muti. On peut les acheter.
Oui, on peut les acheter par Internet.
Et on peut adhérer moyennant 50 euros.
Voilà, on peut adhérer moyennant 50
euros. Et on reçoit les ouvrages publiés dans l'année sans débourser un euro supplémentaire. Voilà. Et c'est Marie-Thérèse qui doit aussi un peu y mettre de sa poche, parfois. J'imagine.
Oui.
Sa retraite d'institutrice sert.
J'ai quelques... Oui, absolument. C'est ça, oui.
Et donc, on recommande 30 ans déjà de Marie-Thérèse Mutin, la créatrice, donc, de ces vénérables éditions Muti qui ont permis à certains auteurs de... Ça a été pour certains un tremplin qui sont passés, partis parfois vers d'autres maisons d'édition plus importantes.
Oui, Laurent Vignien, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même.
Qui est à Bourguignon, qui est en Saône-et-Loire, qui est professeur de lettres.
Qui vient tout le temps, qui est fidèle, bien que je refuse pas mal de manuscrits, parce que...
Ah oui, vous écrivez, rien n'est plus difficile pour moi, du moins, de refuser un manuscrit à un auteur qu'on a déjà publié.
Ah, mais oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. C'est plus difficile que pour quelqu'un d'autre. Mais bon, mais en principe, les auteurs sont intelligents et ils acceptent bien. Laurent Vignien, je lui en ai refusé je ne sais combien. Et il est toujours présent à toutes les manifestations. Voilà, notre amitié est restée toujours la même.
Allez, on fait un bisou à Isabelle Mutin, votre nièce, qui elle aussi travaille beaucoup à la communication.
Oui, à la communication. Et puis, alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle est à Pau. Alors, c'est pas évident. Vive le télétravail.
Et puis, elle a publié quelques recueils
de
poèmes.
Et le prochain... Non, elle a publié des romans. Des romans.
Mais des poèmes aussi.
Oui, des poèmes aussi. Oui, oui. Puis, le prochain livre, ce sera un livre d'Isabelle Mutin. Qui n'est pas favorisée, hein. C'est parce que j'aime ce qu'elle écrit, hein. C'est pas parce que c'est ma nièce, hein, mais c'est parce que j'aime ce qu'elle écrit que je la publie, hein. Voilà.
Et donc, 30 ans déjà de Marie-Thérèse Mutin, c'est la fin de ce wagon livre enregistré donc en public dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons de notre ami Cyril Lefebvre, qui fait un beau travail en Côte d'Or, et notamment mur en Aussois, qui valorise l'édition régionale bourguignonne. C'est pas tous les libraires ne mettent pas en valeur.
Si on en avait 4 ou 5 comme ça en Côte d'Or, on arriverait à s'en sortir.
Et 30 ans déjà est bien mise en valeur dans sa librairie. J'ai même pas besoin d'aller le vérifier. Merci, cher public. On salue Cyril, on salue le mémorable, l'incontournable Gérard Gauthier, l'homme de votre vie, avec Jean Poprenne, qu'on peut applaudir. Merci à vous, cher public, c'est la fin de ce wagon livre. Au revoir, à samedi prochain. Et puis pour ceux qui auraient manqué l'émission, ce qui est fâcheux, il y a toujours moyen de se rattraper avec le podcast sur yannickpetit.fr. Bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Et à samedi prochain sur Radio.
Bon, alors, on y va.